Lizzie présente Glen Afrique de Karine Giebel, lu par Maxime Bansenfort. Ce livre est bref, mais son pouvoir est long. L'amitié informe et invincible nouée entre Lenny, le doux colosse innocent aux mains dévastatrices, et son copain Georges, petit homme aigu, a une beauté, une puissance de mythe. Joseph Kessel, en préface du roman « Des souris et des hommes » de John Steinbeck. Prologue. Si seulement tu pouvais te fondre dans le paysage, passer inaperçu. C'est ce que tu aimerais, parfois. Disparaître. Partir ailleurs. Loin d'ici. Loin des autres. Tu traverses la cour d'un pas rapide en rasant les murs du grand bâtiment. Tout au bout de la vaste esplanade pleine de bruit et d'enfants, tu t'arrêtes près de la clôture. Assis dos au grillage, tu prends une figurine dans la poche de ton jean. Tu aimes l'avoir avec toi, ce héros masqué. Admirer de longues minutes cet homme capable de rendre la justice. Cet homme sans peur qui existe sans doute quelque part. Ailleurs, loin d'ici. Souvent tu lui parles, avec tes mots simples, parfois rudes. Dos au grillage, ta figurine entre les mains, tu espères que cette récréation se passera mieux que les autres. Mais très vite, il te retrouve. Les chiens de chasse ont flairé la piste de l'animal blessé. Ils sont quatre, hilars et mauvais. Ils sont là pour tromper l'ennui, tuer le temps. Te tuer toi, à petit feu. Ils sont là pour assouvir un instinct dont tu ignores tout. Triseau. Bâtard. Ils te bousculent, t'insultent, t'humilient, leur jeu favori. Ils fouillent ton sac, récupèrent leur butin, dérisoire. Alors ils cognent, évitant ton visage pour ne pas y laisser de traces. Contrairement à toi, ils sont malins. Triseau. Bâtard. Comme ça qu'ils t'appellent. Léo le Triseau. Léonard le Bâtard. Un jour, tu as demandé à Mo ce que voulait dire « Triseau ». Elle t'a expliqué que les trisomiques naissaient avec une anomalie génétique, une histoire de chromosomes à laquelle tu n'as pas compris grand-chose. Avec son aide, tu es allé sur le net et tu as découvert des visages étranges, des sourires merveilleux. Tu en as conclu que tu n'étais pas Triseau. Ton visage ne ressemble pas au leur et tu n'as jamais trouvé que ton sourire était merveilleux. Toi, c'est dans ta tête qu'il y a une anomalie. Léo le Triseau. Léonard le connard. Ils continuent à t'insulter tout en empochant le peu d'argent que tu as pu leur apporter aujourd'hui. Coup de pied, éclat de rire. Quand ils s'éloignent enfin, tu restes dos au grillage, replié sur ta douleur. Tu tends le bras pour récupérer ta figurine. Ton héros est cassé. Tu te mets à pleurer. Ce que tu aimerais parfois, c'est disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Première partie. Chapitre 1. Au travers des vitres sales du bus, un paysage. Le même que la veille, le même toujours. Champs clairs, bosquets sombres, clôtures et ronces voraces. Une kyrielle d'étangs grisâtres, des grappes d'oiseaux blancs à leur surface. Des vallons qui ressemblent à d'autres vallons. Des fermes enracinées à cette terre pour l'éternité. Le chêne juste avant le pont, celui où circule le train régional. Quelques vaches aux pattes pleines de boue qui attendent d'être mangées, probablement sans le savoir. C'est du moins ce qu'espère Léonard en passant chaque soir le long de ses pâturages. Car lui, il sait. Il ne sait pas grand-chose, mais il sait la mort. Il l'a vu de près le jour où Joseph s'est pendu dans la grange. C'est laid et définitif. Voilà ce qu'il sait. Mais il se demande parfois si ce n'est pas aussi un chemin vers la liberté. Il attrape le héros masqué dans la poche de son jean et le considère longuement. Il lui manque le bras droit. Comment pourra-t-il sauver l'humanité avec un seul bras? Un peu de colle, peut-être? Un village. Le bus s'arrête pour libérer une volée d'enfants avant de redémarrer. Léonard est assis à l'avant, près du chauffeur, là où ses ennemis ne viendront pas le chercher. Ils sont au fond du véhicule, il peut les entendre rire. De lui, et après. Les moqueries, il en a l'habitude, parce qu'il n'est pas comme les autres. Mona a beau affirmer qu'il est mieux que les autres, Léonard a du mal à le croire. Ses camarades de classe disent qu'il lui manque des cases, qu'il n'est pas fini. Ils disent la vérité, aucun doute. Un jour, il a entendu un docteur confier à Mona que son fils souffrait de retard mental. Et même s'il regarde pendant des heures la pendule de la cuisine, il n'arrive pas à rattraper ce foutu retard. Le bus continue sa route de village en village. Au bout de sa course, Grandvillers, celui où habite Léonard. Le car scolaire stoppe à l'entrée du bourg et finit de se vider. En passant près de Léonard, Jules lui file un violent coup dans la nuque avant de rire, une nouvelle fois.
« Bonne soirée, le triseau !»
Enfin, Jules et ses copains disparaissent. Léonard sera le dernier à descendre car le conducteur accepte chaque soir de l'emmener en haut de la route principale pour lui faire gagner quelques minutes de marche. Surtout parce qu'il a compris qu'il serait en sécurité 500 mètres plus loin. Le véhicule traverse le village, puis se range sur une esplanade.
« Et voilà !»
dit le chauffeur de sa voix abîmée par la cigarette.
« Merci, Martin !»
répond Léonard en prenant son sac sur le siège d'à côté.
« À lundi !»«
À lundi, mon grand ! Salut ta mère pour moi !»
Léonard saute du bus et s'engage sur la route sinueuse qui s'élance au-dessus de Grandvillers. Avec Mo, ils habitent la maison la plus éloignée du centre. Vendredi soir, Léonard sourit. Pendant 2 jours, il ne les verra pas. 2 jours où il n'aura pas à supporter les autres, leurs sarcasmes, leurs regards acides ou condescendants. Pas à supporter ses cours auxquels il ne comprend rien. Mona lui répète sans cesse que l'école est obligatoire, qu'il ne peut s'y soustraire. Mais à quoi bon insister? Il n'est pas de taille, voilà tout. Pas capable de suivre, de retenir, d'assimiler. Ces avalanches de mots, ces coulées de chiffres sous lesquels il étouffe du matin au soir. Il a essayé, pourtant, y a mis toute sa force, toute son énergie. En vain. Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. Tout au long du chemin qui le ramène chez lui, Léonard observe ce qui l'entoure. Les plantes, les arbres, les oiseaux, les insectes. Il aime tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui a des feuilles, des pétales, des pattes, des ailes, des écailles ou des plumes. Jamais un animal ni un arbre ne s'est moqué de sa différence. Il arrive à l'ancienne ferme, sa maison. Mona est dehors, en train de ramasser les feuilles qui jonchent l'allée de gravier. Léonard embrasse sa mère. Elle le serre dans ses bras, heureuse de le retrouver. Quand elle lui demande comment s'est passée sa journée, il prétend que tout va bien. Il reste un moment dehors, à regarder mourir l'automne. Puis rentre dans la vieille bâtisse nichée à l'orée d'une épaisse forêt où résineux et feuillus se disputent la lumière. Léonard monte à l'étage et jette son sac dans un coin de la chambre. Pas de corvée de devoir ce soir.
Salut Arsène.
Un gros chat gris orage qui dort sur la couette ouvre les yeux et s'étire. Léonard s'allonge sur le lit et caresse l'animal qui se met à ronronner. Pendant de longues minutes, ce contact semble les apaiser tous les deux.
« Tu m'as manqué, »
murmure Léonard.
« Allez, j'ai du travail. »
Il se remet debout, installe son héros masqué sur le petit bureau, récupère un tube de colle forte dans le tiroir. Il faut le réparer au plus vite, le monde ne pouvant se passer de lui très longtemps. Une fois la greffe terminée, il pose la figurine sur une étagère.
« Demain, tu seras comme neuf. »
Il s'assoit sur le tapis, ouvre un énorme coffre en plastique, en sort une maquette et continue l'œuvre commencée il y a plusieurs jours. Un avion du début du siècle dernier, avec ses ailes de carton et son hélice de plastique. Ses gestes sont imprécis, maladroits, mais Léonard ne renonce pas. Un avion, un vrai, voilà ce qu'il lui faudrait pour partir loin. Pour s'envoler jusqu'à Glen Africk.